France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine est celle du 140e anniversaire de l'enterrement de Victor Hugo. Nous nous plongeons dans son œuvre, une œuvre monde traversée d'enjeux philosophiques aigus. Ce matin, le romantisme ou la liberté dans l'art. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, écrit Hugo dans un poème du recueil Les Contemplations en 1856. Et il poursuit. Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses. Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des choses, où font gronder le ver, orageuse forêt. Du sphinx esprit humain, le mot, c'est le secret. Et ainsi achève-t-il ce poème. Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu, car le mot c'est le verbe, et le verbe c'est Dieu. Ainsi pour Victor Hugo, la langue peut-elle dire tous les mystères du monde et de l'âme humaine? Ce motif le rattache à toute la révolution romantique qui est en cours en Europe. Comme le précisait le grand connaisseur du romantisme Paul Bénichoux, c'est là l'idée du poète sacré qui vient se substituer au début du XIXe siècle à la figure reine des Lumières, le philosophe. Prophète intuitif, je cite encore Bénichoux, le poète romantique figure dans ses créations une libération des puissances de l'individu, joint à la mystique d'un avenir inconnu. Mais comment l'empreinte romantique marque-t-elle exactement le génie Victor Hugo? Quelle est la tonalité spécifique de son romantisme à lui? C'est notre question ce matin et il faudra bien sûr évoquer la centralité du théâtre dans la révolution romantique hugolienne. Un théâtre libéré des formes corsetées du classicisme. Un théâtre aux accents shakespeariens et en même temps inédit. Le libéralisme en littérature, ainsi Hugo qualifiait-il le romantisme dans la préface de Hernani en 1830. Il reste à comprendre ce que cela veut dire précisément. Bonjour Florence Nogrette.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature française à Sorbonne Université. Vous connaissez excellemment le théâtre hugolien sur lequel vous avez beaucoup publié en Point Seuil, aux éditions Bréal ou encore chez Ide et Calande. Vous avez aussi obtenu le prix Chateaubriand pour votre ouvrage de 2022, Juliette Drouet, compagne du siècle, paru chez Flammarion. Et vous préparez un ouvrage composé d'extraits des contemplations et illustré par des photographies du 19e siècle. Ce sera aux éditions Diane de Cellier. Et bonjour Jean-Marc Ovas.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à Sorbonne Université, spécialiste de Victor Hugo, dont vous avez publié une vaste biographie en 2 volumes, paru chez Fayard. Vous avez aussi réédité plusieurs œuvres de Hugo avec un apparat critique chez Garnier Flammarion, Actes Sud ou encore aux éditions La Fabrique. Entrons d'emblée dans le romantisme de Hugo par la porte du théâtre.
Écoute, on n'est pas maître de soi-même amoureux comme je suis de toi. Et vieux. On est jaloux, on est méchant. Pourquoi? Parce que l'on est vieux. Parce que beauté, grâce, jeunesse, dans autrui tout fait peur, tout menace. Parce qu'on est jaloux des autres et honteux de soi. Dérision que cet amour boiteux qui vous remet au cœur tant d'ivresse et de flamme est oublié le corps en rajeunissant l'âme. Qu'en passe un jeune pâtre? Oui, c'en est là. Souvent, tandis que nous allons, lui chantant, moi rêvant, lui dans son pré vert, moi dans mes noires allées, souvent je dis tout bas, oh mes tours crénelées, mon vieux donjon ducal, que je vous donnerai. Oh, que je donnerai mes blés et mes forêts, des vastes troupeaux qui tondent mes collines, mon vieux nom, mon vieux titre et toutes mes ruines, et tous mes vieux aïeux qui bientôt m'attendront pour sa chaumière neuve et pour son jeune front. Oui, je me dis cela. Vois à quel point je t'aime. Le tout pour être jeune et beau comme toi-même. Mais à quoi vais-je ici rêver? Moi, jeune et beau, qui te dois de si loin devant ces hauts tombeaux.
Qui sait?
Mais va, crois-moi. Ces cavaliers frivoles n'ont pas d'amour si grand qu'ils ne s'usent en parole. Oh, mon amour n'est point comme un jouet de verre qui brille et tremble. Oh non, c'est un amour sévère, profond, solide, sûr, paternel, amical. de bois de chêne ainsi que mon fauteuil ducal. Voilà comme je t'aime. Et puis, je t'aime encore 200 autres façons. Comme on aime l'aurore, comme on aime les fleurs, comme on aime les cieux. De te voir tous les jours, toi, ton pas gracieux, ton front pur, le beau feu de ta fière prunelle. Je ris et j'ai dans l'âme une fête éternelle.
Hélas. C'était Hernani de Victor Hugo, l'acte 3, scène 1. Dominique Rosan joue ici Don Ruy Gomez dans une réalisation de Jacques Régnier diffusée sur France Culture en 1975. Don Ruy Gomez qui aime, pardonnez-moi, Donia Sol da Silva, elle-même aimée aussi de Hernani, qu'elle aime en retour. Ce n'est pas le cas de Don Ruy Gomez da Silva. Le roi d'Espagne, Don Carlos, n'est pas loin non plus. Elle suscite beaucoup d'amour, mais des amours très différents. Ici, c'est un vieil homme qui s'exprime et qui dit que malgré la vieillesse, on n'est pas maître. C'est comme cela que ça commence. On n'est pas maître de ses sentiments, même si ses sentiments sont constitués d'un amour sévère, profond, solide, paternel, amical. Florence Nogrette, ça aussi, c'est romantique.
Oui, on définit parfois le théâtre romantique comme étant le mélange de la comédie et de la tragédie, ou de la tonalité comique avec la tonalité tragique. Le drame romantique, en effet, repose sur une esthétique du mélange qui s'opère à tous les niveaux. Et là, par exemple, avec ce personnage que j'aime particulièrement, Don Ruy Gomez, on a aussi un mélange de deux types de personnages, de deux types d'emplois de comédiens. C'est très difficile de trouver le bon comédien pour jouer Don Ruy Gomez. À l'époque, c'était le cas. Parce qu'il est à la fois un père noble, dans la lignée des Don Diègue, du vieil Horace, de Corneille, et aussi un barbon de comédie, dans la lignée cette fois-ci de l'Arnolf, de l'École des Femmes. Et il est les deux à la fois, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Hugo réussit à créer un vieillard dont on n'arrive pas à identifier à quel emploi de théâtre il correspond. Et ce qui est magnifique, c'est que tout en étant un barbon parce qu'il est vieux, parce qu'elle ne l'aime pas en retour, il arrive quand même à lui faire une déclaration d'amour qui est magnifique, oui, sur ce paradoxe qu'il y a de rajeunir du cœur alors que le corps vous lâche quand on est vieux. Et là où, évidemment, sa posture éthique est très contestable, d'user de son pouvoir patriarcal pour vouloir épouser sa nièce, sa filleule, parce qu'il en a l'autorité légitime en tant que grand d'Espagne, en tant qu'homme aussi qui a tout pouvoir sur la femme qui ne l'aime pas en retour. En même temps, il a cette conscience de l'illégitimité de son désir et de la toute-puissance de la jeune femme d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et c'est cette conscience qu'il a de son ridicule qui le rend sublime.
Et de sa non-maîtrise, qui me semble être l'un des enjeux majeurs de la position romantique, qui est de refuser la maîtrise souveraine, plus classique, la capacité à ranger ses sentiments. Vous avez prononcé le mot barbon, c'est un vieux mot du XVIIe siècle. On dit que les vieillards, qui ne sont d'ailleurs pas si vieux objectivement, mais chez Molière notamment, sont des barbons qui ne comprennent rien à l'amour. Est-ce que pour Hugo, il était important de réconcilier l'âge et l'émotion, la vraie, pas la feinte, pas l'ennui des barbons de Molière, l'émotion véritable?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a là un vieillard qui sait ce que c'est que la jeunesse, qui retrouve sa jeunesse, qui respecte la jeunesse aussi de Donia Sol. Et je trouve tout à fait admirable que Hugo, si jeune, parce que quand il écrit Hernani, il a moins de 30 ans, sache déjà tant de choses sur la vieillesse. Hugo, d'une certaine manière, oui, n'a pas d'âge.
Et on évoquera un poème, oui, de 1831, oui, qui là aussi, mmh, parle de la vieillesse, alors que, oui, comment dire, il a une vingtaine d'années, c'est assez incroyable.
Oui.
Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on revienne sur le problème Hernani, la bataille de Hernani dont on a parlé. Jean-Marc Ovas, je ne veux surtout pas vous empêcher de commenter cette très belle scène qu'on a entendue. Mais enfin, pourriez-vous nous aider aussi à comprendre pourquoi on s'est tant enflammé en France autour de Hernani en 1830. Quel est ce scandale incarné par cette pièce de Hugo ?
Alors on peut effectivement réunir les deux, puisque la bataille d'Hernani, c'est pour beaucoup un affrontement entre les jeunes et les vieux, entre les jeunes romantiques et les vieux classiques, pour le schématiser. Mais pour comprendre l'importance de la bataille, il faudrait peut-être remonter en amont, puisque c'est la fin, en quelque sorte, la bataille d'Hernani, où c'est une étape importante, mais d'une lutte qui commence depuis quasiment le début de la décennie. Donc c'est en 1830, ça commence dès le début des années 20, on va dire.
Et pour le coup, pardon, je me suis trompée dans les âges, il est né en 1802, donc oui. Hugo a la vingtaine, 26 ans, 25 ans, lorsqu'il écrit Cromwell. Elle aussi, cette pièce a une préface importante. Mmh. Puis Hernani, et quant au poème de 1831, il a 29 ans. Dans toutes ces choses, il parle des vieux et des jeunes, des anciens et des modernes. Est-ce qu'il règle si jeune un compte avec les classiques ? Car je rappelle qu'au XVIIe siècle, il y a une très grande querelle des anciens et des modernes. Et ce qui compte peut-être le plus pour nous dans l'âge classique, c'est-à-dire des gens... comme Racine, par exemple, était du côté des anciens.
Les romantiques rejouent cette querelle des anciens et des modernes, c'est la querelle des classiques et des romantiques. Ils ont tout à fait conscience de rejouer ce combat de siècles après. Ça commence, mais ce qui est intéressant dans le cas d'Hugo, c'est qu'au départ, il refuse d'entrer dans la bataille. Et les premiers articles, les premiers textes qu'il écrit sur cette lutte entre les romantiques et les classiques, c'est dans la préface de ses premiers recueils de poèmes, donc les recueils qui vont donner les Odes et Ballades. Et dans ces préfaces, il dit c'est une querelle qui agite le monde littéraire, mais je ne sais pas ce que c'est que les classiques et je ne sais pas ce que c'est que les romantiques. Et donc il se pose d'abord en réconciliateur, en intermédiaire entre les deux camps. Et puis, vous l'avez rappelé, le grand texte théorique important, et là il a basculé du côté des romantiques, c'est Cromwell, et c'est la préface de Cromwell. Donc il écrit une pièce gigantesque, très
injouable,
très longue. Bah oui, mais on joue bien à Claudel, on pourrait la jouer, mais le fait est qu'elle n'a jamais été représentée encore aujourd'hui.
Si, je crois qu'elle a été pour la première fois en 2024 à Sévrac. C'est Alice Tabar qui a coordonné 5 équipes de mise en scène en même temps, c'est-à-dire hier matin, quoi. En fait, on n'a jamais monté.
Donc, elle n'a pas été montée à la Comédie Française, on va dire. Alors, voilà. Pour le dire plus simplement.
Donc, qu'est-ce que c'est que cet acte, déjà, à 25 ans, d'écrire une pièce impossible à monter, avec une préface... c'est presque un coup de marteau pour anticiper sur des mots nietzschéens. Qu'est-ce que fait, là, Hugo ?
Hugo essaye tous les romantiques essayent d'imposer, il n'y a pas que Hugo, mais essaye d'imposer le théâtre, un nouveau théâtre sur la scène. Et il est débordé par son sujet, puisqu'il écrit une pièce trop longue, il en a parfaitement conscience. Et à ce moment-là, il écrit, parce que le théâtre ne se vend pas quand il ne se joue pas, il le sait très bien, mais il veut quand même publier sa pièce. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit une préface à la dimension de cette pièce injouable. Donc en gros, chaque scène, chaque acte fait une pièce entière, donc ça fait comme s'il y avait 5 pièces de théâtre. Et donc il réunit tout ça par une préface proportionnelle qui est gigantesque aussi, qui fait 70 pages dans l'édition originale, donc oui. Vraiment très très importante. Et dans cette préface, il arrive à synthétiser tout ce qui est dans l'esprit du temps. Alors on l'a beaucoup attaqué en disant que c'était pas lui qui avait tout inventé. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est lui qui a tout synthétisé. Et cette préface de Cromwell est une date extrêmement importante. Donc il arrive, non pas à sauver sa pièce, mais à sauver sa création par cette préface, par un écrit théorique, critique, et qui, dans lequel il pose, où il synthétise donc les fondements du romantisme avec le mélange des genres, pas de haut, pas de bas, le grotesque et le sublime, tous les personnages sont mêlés, il n'y a pas
d'unité de lieu, forcément.
Pas forcément les unités de... Les
autant
unités
d'actes
classiques.
Qu'on veut. Non.
En fait, il ne le pratique pas. Il dit que le poète est libre. De toute façon, ça sera son ancienne. Mais en même temps, dans sa création, il respecte, il écrit en vers, il y a des actes. C'est une pièce en 5 actes quand même.
Oui. Florence Nogrette. Bon, on touche là, me semble-t-il, mais vous allez vraiment nous expliquer ce point en détail que je trouve très important. On touche à ce que beaucoup d'auteurs ont appelé le paradoxe central du romantisme. Ça, c'est le philosophe Robert Le Gros qui s'exprime ainsi. Bénichou dit la nature ambiguë du romantisme, c'est-à-dire qu'il est à la fois critique de la modernité. On est quand même, on a quand même affaire à des jeunes hommes qui, surtout des jeunes hommes qui, à ce moment-là, Hugo compris, sont royalistes, contre-révolutionnaires, écrivant dans une revue qui s'appelle La Muse française, qui est une avant-garde de gens qui sont contre la Révolution française et qui veulent une restauration, les ultras, comme on disait à l'époque, et en même temps quelque chose d'hyper moderne dans le romantisme. Robert Le Gros écrit qu'il y a à la fois l'idée d'une création, d'une singularisation, d'une originalité, d'une invention, mais qui s'engendre sous l'effet d'une inscription dans la tradition. Donc il y a et la tradition et l'invention, et l'histoire à retrouver, et l'individu capable de la réélaborer librement. Est-ce que cette nature ambiguë ou ce paradoxe permet d'expliquer cette formule qu'il emploiera dans la préface de Hernani? Pour moi, le romantisme, c'est le libéralisme en littérature. À se demander d'ailleurs où est passé l'aspect tradition. Je vous écoute.
Oui, il y a d'ailleurs des romantismes. Il y a différents courants. Il y a un romantisme de droite, un romantisme de gauche. Ça évolue aussi dans le temps. Jean-Marc l'a dit, quand on arrive dans la fin des années 20, il y a aussi un tournant de Hugo vers le libéralisme. Et au théâtre, ça a un enjeu politique tout à fait particulier, qui est celui de savoir à quel public on s'adresse. C'est-à-dire que le romantisme théâtral, c'est aussi pour ça que souvent on se focalise sur le théâtre dans les années 1830 avec la bataille d'Hernani. La bataille d'Hernani, elle se passe à la Comédie française, où arrive un romantisme qui, au théâtre, s'est déjà déployé sur les scènes secondaires, mais qui ne sont pas les scènes officielles, qui ne sont pas les scènes subventionnées, qui sont des scènes plutôt destinées à un public populaire, qui sont celles du théâtre des boulevards, où déjà l'esthétique qui vient du mélodrame, qui est un genre très spectaculaire, fait d'action, et que Hugo envisage comme étant plutôt destiné à la foule, cette esthétique-là, très optique, avec des émotions fortes, très shakespeariennes, elle est en train d'arriver à la Comédie française, qui est le temple du bon goût. Et c'est le fait de s'imposer à la Comédie française qui fait événement en 1830, là où des pièces du même style ont été jouées ailleurs sur les scènes de mélodrame sans faire événement. Mais parce que Hugo mélange, comme vous dites, la tradition. Et là, la tradition, c'est le vers, c'est la pièce en cinq actes. Et c'est ça, c'est la pièce en cinq actes et en vers. Hugo, Hernani, d'une certaine manière, c'est une tragédie dans sa structure, dans sa forme, oui. Dans son dénouement aussi avec
une fatalité. Daniel Sol s'empoisonne, voilà. Hernani aussi, et Don Ruy Gomez se poignarde sur leur corps.
Voilà, donc on a une fin qui est tout à fait désespérante, sans providence. Et alors ça, en revanche, c'est pas classique, le fait qu'il n'y ait pas de providence à la fin. Puisque dans le théâtre classique, en principe, le dénouement s'explique d'une manière ou d'une autre. Le héros peut être puni de sa démesure, de son orgueil. Il y a une positivité quelconque. Enfin, on tire une leçon. Dans le drame romantique, on ne tire aucune leçon, ni aucune positivité. C'est ça qui est tout à fait désespérant. Mais dans une forme qui est tout à fait classique, avec un respect de l'alexandrin qui est extraordinaire chez Hugo, il le déploie dans sa plus grande... Dans toutes ses possibilités. Il reprend à Corneille certains rythmes, par exemple le trimètre ou les enjambements. Il adore Corneille, il adore Molière. Et c'est ça qui est aussi esthétiquement paradoxal, c'est que les romantiques adorent les classiques, adorent les auteurs classiques. Et dans la préface de Cromwell, il le dit à plusieurs reprises, il a Corneille et Molière comme idoles, mais aussi Shakespeare. Donc, c'est-à-dire que pour les romantiques, il ne s'agit pas de repousser l'esthétique classique, c'est pas ça. Il s'agit de revendiquer une liberté, d'écrire si on veut une pièce à la manière classique ou si on veut une pièce à la manière shakespearienne comme Lorenzaccio.
On écoute cette préface d'Hernani, un extrait, donc 1830. La lecture est proposée par Nicolas Berger de notre équipe.
Jeunes gens, ayons bon courage. Si rude qu'on nous veuille faire le présent, l'avenir sera beau. Le romantisme, tant de fois mal défini, n'est à tout prendre, et c'est là sa définition réelle, si l'on ne l'envisage que sous son côté militant, que le libéralisme en littérature. Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons esprits, et le nombre en est grand. Et bientôt, car l'œuvre est déjà bien avancée, le libéralisme littéraire ne sera pas moins populaire que le libéralisme politique. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et logiques. Voilà la double bannière qui rallie, à bien peu d'intelligence près, lesquelles s'éclaireront, toute la jeunesse si forte et si patiente d'aujourd'hui. Puis, avec la jeunesse et à sa tête, l'élite de la génération qui nous a précédés, tous ces sages vieillards qui, après le premier moment de défiance et d'examen, ont reconnu que ce que font leurs fils est une conséquence de ce qu'ils ont fait eux-mêmes et que la liberté littéraire est fille de la liberté politique. Ce principe est celui du siècle et prévaudra. Les ultras de tout genre, classiques ou monarchiques, auront beau se prêter secours pour refaire l'ancien régime de toutes pièces, société et littérature, chaque progrès du pays, chaque développement des intelligences, chaque pas de la liberté fera crouler tout ce qu'ils auront échafaudé. Et en définitive, leurs efforts de réaction auront été utiles. En révolution, tout mouvement fait avancer.
À se demander, avec cette petite pique à l'endroit des ultra-royalistes, si déjà, là, à 29 ans, Hugo n'est pas en train de quitter ce cercle politique dont il a fait partie, en particulier dans cette revue qui s'appelle La Muse française, où tous les grands romantiques français adoraient Chateaubriand, c'était leur idole. Chateaubriand n'a jamais trahi les ultras, même s'il ne s'est jamais privé de les critiquer non plus. Hugo est déjà loin, d'après vous, Jean-Marc Ovas ?
Oui, on est en 1830, alors disons que l'apogée la fin de son combat ultra, on peut le dater de 1825, avec la grande ode sur le sacre de Charles X, dont nous fêtons le bicentenaire presque aujourd'hui aussi, puisque c'était en mai 1825, 29 mai 1825, Hugo est le poète quasi officiel du sacre de Charles X. Là, il est encore ultra, disons c'est la fin de la période de son ultracisme, et pendant les 5 ans qui suivent, de 25 à 30, eh bien il s'en éloigne assez régulièrement et rapidement quand même. Et effectivement, le texte qu'on vient d'entendre, il l'écrit au début de l'année 1830, Il est plus du tout ultra. Il a basculé du côté du libéralisme sous l'influence de certains amis, dont Sainte-Beuve, mais pas uniquement. Et puis, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il l'a écrit après la Révolution de 1830. Oui. Et en fait, c'est 6 mois avant. Et l'idée, c'est véritablement que le romantisme a partie liée à la Révolution française. Il y a eu la Révolution française, le romantisme est l'expression littéraire de la liberté permise par la Révolution française. Et quand il écrit ce texte, effectivement, donc la Révolution de 1830 n'a pas eu lieu, elle aura bientôt lieu, et rétrospectivement encore, il se donnera un rôle dans cette Révolution de 1830, il n'aura pas eu un rôle politique, mais un rôle idéologique, avec cette revendication de la liberté à tous les niveaux.
Alors c'est intéressant, parce que Chateaubriand aussi avait ses moments, c'est la génération au-dessus, certes il était un ultra royaliste, toujours fidèle à Charles X, même si dans les mémoires d'outre-tombe, il va le voir sur son lit de mort, c'est pas très glorieux pour Charles X, il a un regard assez sévère. Mais Chateaubriand avait ses moments où il parlait de liberté en disant que c'était des imbéciles, les ultras, de pas vouloir par exemple la liberté de la presse, enfin, il faisait des clins d'œil, des signes à Benjamin Constant, qui pourtant politiquement n'était pas de son bord. Mais là c'est plus chez Hugo, ce que vous dites c'est que même l'idée de révolution, avant la révolution de 1830 dans Hernani, après, n'en parlons même pas, puis 1832, les émeutes, les révoltes vont inspirer les misérables. Ça y est, l'idée révolutionnaire, carrément, est réhabilité par Hugo? Et est-ce que c'est un trajet finalement assez typique des romantiques de cette génération-là? Chateaubriand, non, mais oui pour Lamartine.
Voilà, oui, pour c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, surtout pour Lamartine et pour Hugo. Hugo, c'est effectivement Chateaubriand d'abord, Lamartine ensuite. Donc ils sont plus âgés que lui. Hein. Chateaubriand, nettement. Lamartine, 12 ans de plus aussi que lui, quand même. Et les deux, avec Lamartine, ils ont le même mouvement de passage, comme ça, de cet ultracisme romantique d'origine, parce qu'ils revendiquaient les origines médiévales de la France, le catholicisme, la religion, etc. Et puis, ils s'en éloignent progressivement ensemble pour aller vers la liberté. Ils sont très déçus par la politique réactionnaire de Charles X. Alors, évidemment, Chateaubriand n'a pas la même évolution tout à fait, mais comme vous le dites, il annonce la République aussi, Chateaubriand, en disant que ce sera l'avenir de la France. Donc, même s'il reste fidèle, mais il est beaucoup plus... Chateaubriand, c'est Don Ruy Gomez dans Hernani. C'est la génération...
Ah oui.
On pourrait s'amuser à penser ça.
Vous êtes d'accord.
Oui, oui.
Et alors, donc, au premier rang d'Hernani, la première représentation, il y a Alexandre Dumas, il y a Théophile Gautier, ça c'est les amis.
Gérard de Nerval.
Oui. Et les ennemis, c'est qui? C'est Balzac. Balzac qui dit « Ah, j'ai bien aimé les autres Zébala de 1828, mais ce Victor Hugo, 1830, avec Hernani, retombe dans ses défauts. Ça lui plaît beaucoup. » Balzac n'a jamais vraiment aimé Hugo.
Oh, si, si. Ah. Hugo a défendu Balzac quand sa pièce Vautrin, en 1840, est censurée. Hugo milite à ses côtés. Il faut faire la distinction entre ce que Balzac écrit dans sa correspondance. Ah. Où il se lâche un petit peu, et parfois un petit peu malveillant, et leur véritable relation. Et puis Hugo fera un magnifique discours à la mort de Balzac. Hein.
Bon, donc tout ça est plus complexe qu'on pourrait le croire.
Oui, donc ceux qui sont contre les romantiques en 1830, c'est essentiellement les auteurs néoclassiques qui voient leurs pièces repoussées, leurs pièces qui sont entrées à la Comédie française qui devrait être jouée, et il voit les jeunes lions romantiques, notamment Dumas et Hugo, leur passer devant. Et les pièces de Dumas et de Hugo sont jouées avant celles des vieux auteurs. C'est plutôt les vieux auteurs néoclassiques qui se plaignent de voir leurs prérogatives disparaître petit à petit. Et puis c'est une partie de la presse qui a du mal à accepter l'idée, comme je disais tout à l'heure, que les règles qui distinguent les répertoires on doit jouer dans les théâtres pour le peuple et le répertoire haut de gamme qu'on doit jouer dans les théâtres de l'élite, c'est-à-dire l'opéra et la comédie française, puissent se fondre dans une unité de style qui amène à penser que les publics devraient se fondre aussi en un seul goût unanime. Et en fait, c'est l'idée du théâtre national populaire que les romantiques annoncent un petit peu, qui paraît dangereuse à une époque où quand même les classes sociales restent séparées, l'aristocratie, la bourgeoisie, le peuple. On a du mal à s'imaginer qu'on puisse avoir un spectacle unanime pour tout le peuple.
Alors, je vous propose qu'on revienne quand même à la référence à Chateaubriand, car tous ces textes, alors cette fois-ci on passe à la poésie, où Hugo dit qu'il peut, alors qu'il est encore très jeune, il n'a pas 30 ans, penser déjà le vieillard qui a été avant lui pour les autres et qu'il sera un jour. Cette façon de ramasser l'histoire dans une seule âme humaine, puissance du poète sacré, dirait Bénichou, toute puissance peut-être, c'est très Chateaubriand, cette idée que l'histoire nous est disponible dans sa chair à chaque instant, pour celui qui développe la sensibilité romantique. Écoutez ce passage du poème qui s'appelle « Le siècle avait 2 ans » et qu'on trouve dans les feuilles d'automne de Victor Hugo en 1831.
Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé. Et l'on peut distinguer bien des choses passées dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux, tombé de lassitude au bout de tous ses vœux, pâlirait s'il voyait comme un gouffre dans l'onde mon âme où ma pensée habite comme un monde. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté, tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté, mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse, les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse, et quoique encore à l'âge où l'avenir sourit, le livre de mon cœur à toute page écrit.
C'est André Falcon de la Comédie Française qui lisait cet extrait du poème « Ce siècle avait deux ans » de Feuilles d'automne, 1831. J'aimerais savoir comment vous commentez, je ne sais pas, face à vos étudiants, ou face aux chercheurs, ou face à vous-même, Jean-Marc Ovaz, ce poème dont j'avoue humblement que je ne considère pas que ce soit le Hugo le plus flamboyant. Je le trouve un peu compassé, un peu... Je trouve qu'il y a un peu de pause, hein, c'est peut-être moi face à l'histoire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, le problème, c'est qu'on en a entendu un tout petit bout, avec une diction assez traditionnelle et ancienne, un peu emphatique, on va dire, pour la diction elle-même, donc ça ne facilite pas les choses. Et puis, c'est un poème qui est très beau pour le début, il y a des tas de passages magnifiques. Bon, le début, que tout le monde connaît, ce siècle avait deux ans, donc c'est le poème où Hugo met ce poème en tête des feuilles d'automne, premier recueil de la monarchie de Juillet en 1831, donc il n'a pas encore 30 ans, et surtout, donc, il raconte sa vie, donc c'est lui qui parle.
Parce que lui, il est né en 1802, voilà, donc, le siècle avait deux ans.
Donc c'est l'interaction, alors c'est à la fois le lien entre l'histoire et l'histoire personnelle, et sa biographie, c'est dire « je », il parle de lui en tête d'un recueil, donc c'est le romantisme, c'est le lyrisme, il raconte sa vie, il parle de lui, donc il s'affiche. Et c'est le jeune auteur qui a pris la tête du mouvement romantique français et qui, en premier poème de son recueil, de son nouveau recueil, raconte sa vie. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis, alors, mon âme ou ma pensée habite comme un monde, on l'a entendu, c'est un vers assez connu, mais moins connu que la fin de ce développement, qui est « Mon âme aux mille voix que le Dieu que j'adore mit au centre de tout comme un écho sonore ». Et donc, c'est cette notion d'écho sonore qui définit très bien, qui est quand même un assez beau vers, qui définit très bien la poésie romantique, l'ouverture au monde. Alors, l'âme reflète le monde et l'âme se répand sur le monde. Il y a une sorte de double échange comme ça. Tout ça, joint à sa propre biographie, ça se termine avec mon père, vieux soldat, ma mère, vendéenne, fidèle enfin au sang qu'on versait dans ma veine. Mon père, vieux soldat, ma mère, vendéenne. Donc, il se définit lui-même. Et
peut-être que ce qu'on entend là, c'est une attitude dont Chateaubriand avait vraiment le génie. Par exemple, dans Le génie du christianisme, qui précisément a été publié en 1802, Chateaubriand, lorsqu'il évoque le baptême, fait le lien entre le bébé et tous les vieillards du monde. Je cite « Le nouveau nom de l'enfant, l'antique nom de son ancêtre, est répété de bouche en bouche, et chacun, mêlant le souvenir du passé aux joies présentes, croit reconnaître le vieillard dans le nouveau-né qui fait revivre sa mémoire. » Et puis quand il parle des cloches, par exemple, on sent que c'est toute l'histoire qui sonne. Les cloches d'aujourd'hui sonnent comme les cloches de jadis, c'est comme elles sonneront toujours. On a l'impression que cette façon de traverser le temps grâce à une seule âme sensible, on a déjà entendu ces thèmes. Il est vrai que Hugo a des
On les a entendus, mais on les a jusqu'à Proust. Et moi, je vous entends, je pense à La Recherche du Temps Perdu, je pense à la fin de La Recherche du Temps Perdu aussi. Donc c'est vrai, c'est une époque peut-être qui a commencé avec Chateaubriand et qui a terminé avec Proust. Mais et Hugo s'inscrit dans ce mouvement-là, c'est vrai. Mais ça a choqué à l'époque même. On a une lettre très amusante de Charles Nodier, qui était un des mentors de Victor Hugo à cette époque-là. Charles Nodier, qui est intermédiaire pour l'âge entre Chateaubriand et Victor Hugo. Et Charles Nodier lui écrit « Mon ami, vous êtes trop jeune pour avoir écrit ces vers ». Et il lui reproche précisément dans ce poème de poser au vieillard. Et il lui dit « Laissez-nous ça à nous ».
Alors, maintenant va venir justement un autre poème. On traverse un peu quelques décennies, nous sommes en 1856, c'est le recueil Les Contemplations. Là, je crois que je ne suis pas la seule dans ce studio à penser qu'il y a un génie extraordinaire, peut-être très différent de celui qu'on vient d'entendre dans Feuilles d'automne. C'est le génie du poète qui saisit l'instant. Pas toute l'histoire, justement, mais uniquement l'instant. Je crois que c'est le deuxième poème du recueil. Mes deux filles, il faut savoir que l'une d'elles est morte. Il raconte, il repeint un tableau d'avant cette mort et d'avant ce chagrin. On écoute.
Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, belle et toutes deux joyeuses, ô douceur. Voyez, la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles, un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, dans une urne de marbre agitée par le vent, se penche et les regarde, immobiles et vivants, et frissonne dans l'ombre et semble au bord du vase un vol de papillons arrêté dans l'extase.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et nous aussi, nous frissonnons, c'est un poète, c'est un poème extraordinaire, très bref. Florence Nogrette.
C'est un poème très bref qui fait une seule phrase,
oui.
Qui est comme un petit objet, qui m'a longtemps intriguée, parce que comme vous, Géraldine, je me demandais pourquoi je l'aimais autant. Et un jour, je me suis dit que ce poème était comme l'ekphrasis, c'est-à-dire la description d'une œuvre d'art, hein, et que cette œuvre d'art, c'est une photographie. Hugo pratiquait la photographie avec ses fils et amis quand il était à Jersey,
oui.
À l'époque où probablement il a écrit ce poème, dont on ne connaît pas exactement la date, dont évidemment le référent biographique est antérieur à l'exil, au temps où Léopoldine était encore vivante, puisque là il décrit ses deux filles, Léopoldine et Adèle, au jardin. Et il se trouve que les contemplations, enfin, c'est ce dont je parlerai dans l'édition des contemplations illustrées par la photographie qui paraîtra à l'automne,
oui,
chez Diane de Cellier, a beaucoup à voir avec l'album photographique. Dans sa composition, dans,
oui,
la manière dont on le donne à contempler aux autres, dans la sociabilité de la contemplation en commun, dans la dédicace aussi. Il y a beaucoup de poèmes dédicacés dans les contemplations, en hommage, et beaucoup de spectres aussi. Or, la photographie, c'était un art spectral qui venait de se démocratiser, qui commençait à se démocratiser, un art spectral parce que les personnes qu'on photographie, bien, elles mourront un jour. On a des photographies de nos ancêtres, hein, photographiées au moment où ils étaient vivants. C'est très troublant, hein. Et là, je crois que quand on a une sorte d'équivalent d'une photographie impossible, qui est celle de Léopoldine, qui est la seule qu'on n'a pas pu photographier en exil, puisqu'elle était morte en 43. Et qu'en exil, tout le monde est photographié dans la famille Hugo, sauf elle, évidemment. Et là, la voici comme photographiée, ce qui me fait penser qu'il s'agit d'une sorte d'équivalent poétique, hein, donc une ekphrasis de la photographie, c'est le fait qu'on a une seule phrase, donc un objet clos, qu'on a un cadrage, une invitation à regarder, voyez l'invitation à regarder, au seuil du jardin, donc on a un cadre, et puis on a un paysage qui est censé être dans un jardin, donc avec des couleurs, mais qui est en réalité en noir et blanc. Blanc, le cygne, la colombe, les œillets blancs, l'urne de marbre, noir, le soir, l'ombre. Et puis, on a ce motif de ce qui, dans la vie, tremble, bouge, et qui, là, est fixé dans l'instant. Notamment, le dernier vers, un vol de papillon arrêté dans l'extase. Et la photographie, à l'époque, évidemment, nécessitait des temps de pause qui faisaient que tout ce qui bougeait un peu était nécessairement un peu flou. Et donc, je vois dans ce poème qui peut paraître à la première lecture un peu mièvre, hein, qui pourrait le paraître, mais qui à moi ne me paraît pas du tout mièvre, quelque chose d'au contraire très aimant et très spectral, avec cette apparition de Léopoldine qui revient de l'au-delà dans cette famille qui pratiquait la photographie à l'époque, hein. Et donc je trouve que c'est un très très beau poème sur la mort, avec évidemment quelques allusions,
sans le dire,
l'urne de marbre, les, oui, œillets blancs, l'ombre, le papillon, qui est une image tout à fait classique de l'éphémère, du caractère très éphémère de la vie. Donc c'est apparemment très charmant, scène de jeunes filles au jardin, et en réalité c'est un poème qui parle de la mort et de la perte et de l'absence.
Tout à l'heure, nous avions un Hugo de 29 ans qui disait que toute l'histoire se retient, elle est là, sa chair est là près de nous, nous pouvons la saisir, rien ne se perd. Et à 54 ans, nous avons maintenant un Victor Hugo. Jean-Marc Ovaz qui dit d'une certaine façon tout le contraire. Il n'y a que des instants qui sont déjà presque perdus. La mort rôde. Et cet homme qui a souffert est un autre romantique.
Oui et non. Je vous remercie toutes les deux d'avoir attiré l'attention sur ce poème, qui n'est pas le plus connu des contemplations, loin de là, mais qui est très intéressant, en sens qu'on dit toujours Hugo fait des longs poèmes, l'emphase, etc. Là, c'est exactement la démonstration inverse. Mais c'est arrivé dans toute son œuvre. Alors, peut-être un peu plus dans les contemplations, mais on a déjà des poèmes très courts, avant l'exil, très beaux aussi. Là, il tend vers le haïku. Ça me fait penser à, ce dernier vers me fait penser à un haïku aussi. Voilà, donc ça, c'est un autre Hugo, mais c'est un Hugo qui se développe en parallèle. Il y a aussi des grands poèmes historiques dans les contemplations, et juste après les contemplations, il écrit La Légende des siècles, qui est quand même une partie liée à l'histoire, et avec des longs poèmes. Donc je pense que les deux, enfin, l'un n'est pas du tout, exclusif de l'autre.
Il y a plusieurs Hugo tout le temps.
Exactement, oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est fascinant et compliqué à analyser, mais c'est ça.
Je vous en propose justement un autre, c'est aussi dans les contemplations, c'est un clin d'œil peut-être au romantisme allemand, vous me direz. Écoutons donc ce poème qui s'intitule « À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ?» dans les contemplations 1856, et c'est Denis Podalydès qui lit.
« La nuit était fort noire et la forêt très sombre. Hermann, à mes côtés, me paraissait une ombre. Nos chevaux galopaient à la garde de Dieu. Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essaim d'oiseaux de feu. Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance, l'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance. Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez. Or, tout en traversant ces solitudes vertes, Hermann me dit « Je songe aux tombes entrouvertes, et je lui dis « Je pense aux tombeaux refermés. » Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Nos chevaux galopaient à travers la clairière. Le vent nous apportait de lointains angélus. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent. Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. » Les fontaines chantaient. Que disaient les fontaines ? Les chênes murmuraient. Que murmuraient les chênes ? Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Hermann me dit « Jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres veillent. » Et je lui dis « Hélas, d'autres sont endormis. » Hermann reprit alors « Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux. J'en vis leur fosse où l'herbe pousse. » Où ses feuilles les bois, car la nuit les caresse avec ses douces flammes, car le ciel rayonnant calme toutes les âmes dans tous les tombeaux à la fois. Et je lui dis, tais-toi, respect au noir mystère. Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange expiré, c'est ton père et ta mère. Ne les attristons pas par l'ironie amère. Comme à travers un rêve, ils entendent nos voix.
Vous nous avez suggéré ce poème, Jean-Marc Ovaz. Pourquoi ?
Oui, c'est une bonne question. Je vous remercie beaucoup de l'avoir mis. J'adore ce poème, je ne sais pas pourquoi. Non, alors, parce que je voulais insister sur le romantisme français qui est un mouvement international. Ça, c'est très important. On l'oublie souvent. Dans les critères du romantisme, de ces jeunes romantiques qui publiaient dans la Muse française, il y avait l'ouverture à la littérature étrangère. Florence en a parlé avec Shakespeare, qui est le dieu. Oui. Mais il y a aussi la littérature allemande, grâce à De l'Allemagne de Madame de Staël, très important dans cette histoire-là aussi, publiée en 1810 puis 1813. C'est le romantisme allemand et le romantisme anglais, et la littérature anglaise plus généralement, parce que ça va jusqu'à Byron, mais enfin, Shakespeare pour le théâtre, et les ballades de Schiller, de Goethe. Et là, on a, c'est presque un exemple unique dans l'œuvre de Victor Hugo, on a une ballade germanique. Il l'écrit au moment où il écrit Le Rhin, ce grand livre sur l'Allemagne, précisément. Et on n'a pas tellement d'autres éléments. Avec ce poème du double, on entend qu'il y a deux personnages, Hermann et je. Et Hermann, Hugo, dans une note, explique que à cette époque-là, son moi, c'est quelqu'un de multiple, se divise en quatre. Il y a Olympio, qui est très connu par de nombreux poèmes, qui est le lyrisme. Mm-hmm. Malia, qui est le rire, la caricature, Hiero, qui est le combat, la lutte politique, et enfin Hermann, qui est l'amour. Et dans ces quatre personnages, dans son œuvre, pour Hermann, on n'a presque rien, sauf ce poème, en fait. Ce poème qui est un dialogue entre lui et lui-même, donc entre Hermann et Hugo, dialogue romantique allemand, dans cette chevauchée fantastique, entre ces deux personnages penchés vers les morts. Un Hermann qui est plus cynique, et un jeu qui est quand même plus lyrique. Et c'est un poème assez mystérieux quand même, qui mérite une...
Et la forêt, bien sûr. La forêt qui est presque un autre personnage encore aussi dans ce poème. Alors c'est vrai que le romantisme allemand précédé par le mouvement du Sturm und Drang dès les années 1770, c'est peut-être le premier romantisme d'Europe. Oui. C'est peut-être aussi cet hommage que veut faire Hugo à ceux qui ont été les premiers. En même temps, j'ai une question de nouveau politique. Goethe et Herder, du Sturm und Drang, allemands, ont fini par ne plus être du tout d'accord politiquement. Herder est devenu un nationaliste allemand. Goethe était désespéré par cet aspect nationaliste, etc. Derrière, il y a aussi une conception du peuple, très certainement. Est-ce que vous pensez que ces questions travaillent Hugo, lui qui n'est plus, au moment des contemplations, le jeune royaliste qui a découvert le peuple, c'est le moins qu'on puisse dire, la République aussi, et en même temps, il n'est pas du tout herderien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue pour lui, aussi politiquement, dans son rapport au romantisme allemand ?
Sans doute, il n'est pas non plus goethéen. Sa référence, c'est Schiller. C'est étrange, hein, mais il le répète souvent. Pour lui, Goethe est surfait, ce qui est assez drôle quand on lit ce jugement de valeur. Pour lui, le grand auteur allemand, c'est Schiller. Non, et puis, l'art majeur de l'Allemagne, ce qui est écrit dans William Shakespeare, c'est pas la littérature, c'est la musique. Donc, pour lui, les Allemands, c'est la musique, c'est Beethoven. Le grand Allemand, c'est Beethoven, écrit-il. Donc, il connaît pas extrêmement bien le romantisme allemand, il le connaît comme beaucoup de Français par Madame de Staël.
Il ne connaît pas Novalis, il ne connaît pas vraiment...
Il les connaît de nom, il a pu lire des articles, mais il n'était pas du tout germanophone, même s'il aimait l'Allemagne. Hein, il a dit dans le Rhin, j'aurais aimé être allemand si je n'avais pas été français. Bon, il a dit d'autres choses parfois, il préférait encore être espagnol, mais en tout cas, il avait cet attrait pour l'Allemagne très fort dans ces années 40, qui sont celles où il écrit ce poème.
Et c'est peut-être finalement autre chose que la question politique qui le rattache à cette...
Sauf que je pense, parce que je connais pas assez Schiller, mais je pense qu'il y a quand même chez Schiller une conception du peuple dans le théâtre, Don Carlos, qui se rapproche vraiment de ce qu'il essaye de faire dès Hernani. Hein.
Alors l'Espagne, le théâtre est espagnol hein, chez Hugo. Le jeune Hugo a pris plusieurs thèmes venant d'Espagne. Pourquoi, d'après vous, Florence Nogret?
Bien, la seule langue étrangère que Hugo connaissait un petit peu, c'était l'espagnol, puisqu'il y avait vécu un an quand il était enfant. Il avait passé un an à Madrid auprès de son père, qui était général de l'armée d'occupation française en Espagne. Donc, il a cette formation, cette culture de l'Espagne. Et puis, il y a aussi les auteurs du siècle d'or espagnol qui l'influencent, tout comme Shakespeare. Ça fait une deuxième raison d'avoir cette inspiration-là. Pour revenir à la question que vous posez, mais tout à l'heure, Géraldine, sur l'Europe, sur l'européanisme de Hugo. Il faut voir aussi que dans l'histoire littéraire, cette germanophilie de Hugo lui a valu ensuite quand même des critiques. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, au début de l'école de Jules Ferry, quand apparaissent les premiers manuels où le romantisme est intégré dans les enseignements qu'on délivre aux collégiens ou aux lycéens, cette sympathie du romantisme pour les littératures étrangères devient suspecte.
Sous
la Troisième République, l'Allemagne n'est pas vraiment...
Oui, d'accord, pour l'Allemagne, voilà, vous parlez plus largement.
Mais
là
aussi, il y a aussi cette idée qui est une des critiques qui est faite au romantisme, qui est d'être précisément ouvert aux littératures étrangères, donc à l'étranger, et de minorer l'idée qu'on se faisait encore au XIXe siècle de la littérature française comme étant, comme au XVIIIe siècle, la plus grande littérature du monde.
et la langue française comme étant la langue dominante en Europe, ce qu'elle était, puisque c'était la langue diplomatique, la langue des cours. Donc, la périodisation qu'on a longtemps faite du romantisme, qui maintenant n'est plus du tout de mise, mais qui l'a longtemps été, qui le fait commencer en 1830 avec Hernani et se terminer prétendument en 1843 avec les Burgraves, dont on raconte qu'ils ont chuté, alors qu'en réalité ils n'ont pas chuté du tout, ils ont été joués 33 fois avec beaucoup de succès. C'était une périodisation qui avait été inventée pour limiter le romantisme au plus petit tampon chronologique possible. Le limiter à 13 ans, parce qu'on ne pouvait pas nier qu'il y avait eu ces événements quand même à la Comédie française, qui étaient Hernani et les Burgraves. Et quand on lit les manuels de littérature de la fin du XIXe siècle, on voit que le romantisme est déconseillé aux jeunes gens parce que c'est pas nationaliste, hein, parce que c'est trop ouvert à l'étranger, et que ça risque aussi, parce que souvent les dénouements des pièces, notamment romantiques, sont désespérants, de faire d'eux de mauvais soldats, de mauvais citoyens, des gens désespérés et non pas suffisamment virils et pas suffisamment belliqueux.
Je vous laisse le dernier mot peut-être là-dessus, Jean-Marc Ovaz, si vous le souhaitez.
Non, mais c'est tout à fait... J'ai rien à ajouter. C'est vrai que c'est un mouvement international et Hugo le revendique jusqu'à William Shakespeare en 64, qui est le dernier grand texte théorique d'Hugo sur cette question-là, une sorte de bilan du siècle et du romantisme à la gloire de William Shakespeare. Et c'est l'époque où Hugo dit qu'il est... Il se sent européen, avant tout.
Vous entendez Edita Gruberova et Franco Vassallo dans l'opéra Lucrèce Borgia du compositeur italien Gaetano Donizetti, qui a été créé la même année que la pièce de théâtre Lucrèce Borgia de Victor Hugo, c'est-à-dire en 1833. Merci beaucoup Florence Nogrette et Jean-Marc Ovaz. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à l'intérieur et l'extérieur. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi critique-t-on l'intériorité ? Dans la psychologie du 19e et du 20e siècle est apparu un terme en effet mystérieux et qui a été fortement critiqué par la suite, qui est le terme d'intériorité. On appelait alors intériorité l'expérience psychologique en tant qu'elle se passe dans l'intimité, dans l'intériorité d'une conscience, d'un vécu, comme on disait alors, subjectif. On ne pensait pas même au cerveau à l'intérieur de nos crânes, mais vraiment à quelque chose comme une expérience intime des sujets individuels qui ont un dialogue intérieur, comme le disait un grand livre de philosophie de la fin du 19e siècle, traduisant l'antique expression de Platon, de penser avec soi-même, mais comme avec l'idée que dans nos crânes, dans nos esprits, dans nos consciences, se passe un phénomène réel qui est le rapport à soi-même, qu'on appelle alors l'intériorité. Oui, dans le cercle fermé de nos corps, dans nos enveloppes physiques, dans la peau, dans le crâne, se passerait le dialogue réel du sujet avec lui-même, cette mystérieuse intériorité que l'on n'arrive jamais à saisir, parce que si vous ouvrez le cerveau, vous ne la verrez pas, mais qui en même temps nous apparaît comme une évidence. Alors, elle a été beaucoup critiquée au XXe siècle, et on se souvient par exemple du grand livre de Jacques Bouvresse sur la philosophie de Wittgenstein, qu'il appelait le mythe de l'intériorité. Et Wittgenstein, en effet, ce grand critique de l'intériorité au nom du langage, ce Wittgenstein avait montré que l'intériorité n'est qu'un effet de langage. Je ne peux jamais la montrer, elle n'existe pas. Mais par contre, c'est une façon de parler de nous-mêmes. Elle est donc totalement extérieure. Elle ne se voit que dans l'extérieur, dans certains comportements. Si je veux savoir ce que tu penses, je regarde ce que tu fais et surtout je regarde comment tu en parles. La psychanalyse elle-même, d'ailleurs, a été partagée entre les deux. Est-ce qu'il y a des pulsions intérieures ou est-ce que ce sont les récits, les actes extérieurs qui nous révèlent cette supposée intériorité qui nous échappera toujours, le sens, la signification se donnant toujours au dehors, dans le langage, dans le monde, dehors, comme disait aussi Sartre, critiquant l'intériorité visqueuse, dehors, je suis chose parmi les choses, homme parmi les hommes. L'intériorité visqueuse, gluante de la psychologie du 19e siècle a donc été critiquée à la fois par Sartre et par Wittgenstein. Étrange convergence des deux plus grands génies du 20e siècle, peut-être en philosophie au cœur du 20e siècle, comme l'ont pensé certains en France ou en Angleterre. Peut-être excessivement, mais en tout cas sur ce thème, il convergerait dans ce refus acharné de l'intériorité de l'esprit. Pourtant, cette notion d'intériorité résiste. Elle résiste à sa critique. Elle résiste peut-être non pas comme une réalité objective parmi d'autres, une sorte d'objet caché en nous, un mystérieux quelque chose qui serait l'âme ou l'esprit en nous, notre vie et notre subjectivité qu'on dit profonde, mais une représentation de nous-mêmes, en effet, dans ce corps que j'habite, dans cette singularité, dans cette individualité personnelle. Dire que l'intériorité n'est qu'un mythe, c'est aussi faire de nous-mêmes un pur vide, comme chez Sartre justement, un néant qui peut se réaliser de mille et mille façons. Non, il y a une constitution progressive de notre vie intérieure à elle-même, dont je peux certes parler, qui se traduit dans des actions, mais une intériorité qui a besoin de se définir par rapport au reste du monde, par rapport à un extérieur, pour survivre.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.